Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. L'ambiance est tendue en prison. Les règles sanitaires contre le coronavirus sont mal vécues par les détenus. On entendra l'inquiétude du représentant de FO Pénitentiaire à Metz, où hier une vingtaine de détenus a refusé de regagner les cellules. Tout faire pour éviter les incendies, c'est la mission des pompiers partout en France en ce moment avec les fortes chaleurs et la sécheresse de ces derniers jours. Peut-être faites-vous partie de ces Français qui scrutent les avis d'autres consommateurs pour acheter en ligne. De nombreux sites propose de laisser des avis, sauf que certains sont faux. Et pour les traquer, les agents de la DGCCRF utilisent l'intelligence artificielle. Précision dans un instant. Dans ce journal encore, l'inauguration du nouveau pont de Gênes. Demain, près de 2 ans après l'effondrement du viaduc qui a fait 43 morts en Italie. La situation sanitaire est dramatique au Mexique sur le front du coronavirus. Et puis en Turquie, les Stambouliotes qui se baignent dans le Bosphore malgré la pollution. Point météo complet à la fin du journal.
France Inter.
Et d'abord, après le football, le basket et la NBA, c'est au tour de la Formule 1 de manifester officiellement contre le racisme. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Alexandra.
Du service des sports de France Inter. C'était le Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi à Silverstone. Course remportée in extremis par le Britannique et leader du championnat du monde Lewis Hamilton. Voilà pour l'aspect sportif. Mais l'image qui restera, Jean-Pierre, c'était juste avant le départ. Les pilotes qui affichent leur soutien au mouvement mondial Black Lives Matter. Pour la première fois, c'est tous ensemble et de façon organisée.
Thank you for this statement of support to end racism in the world.
Et oui, vous l'entendez, merci pour cette déclaration de soutien contre le racisme dans le monde. C'est l'annonce du speaker du Grand Prix juste avant la course. En fait, l'image est très forte puisque quelques secondes avant, les 20 pilotes, la totalité du plateau, eh bien, se tiennent sur 2 lignes. 13 ont un genou à terre et 7 autres se tiennent debout juste à l'arrière en silence. Lewis Hamilton, lui, est devant, au milieu. Genou à terre, évidemment, tout un symbole. C'est lui, souvenez-vous, qui avait demandé il y a quelques semaines à son écurie de repeindre en noir les Mercedes jusque-là argentées. Et puis depuis, les mots « end racism », la fin du racisme, se voit maintenant en très bonne place sur les voitures et les casques. Il y a 2 semaines au Grand Prix de Hongrie, 15 pilotes sur 20 avaient participé à une action comparable. 8 avaient déjà mis un genou à terre. Lewis Hamilton va même plus loin dans son combat puisqu'il a critiqué le manque de soutien de la F1 dans son ensemble avant la journée d'aujourd'hui. Il a appelé Romain Grosjean, actuellement à la tête de l'association des pilotes de Grand Prix, car le Français, selon lui, se serait opposé à l'idée de plier symboliquement le genou au-delà d'une seule fois. Mais Lewis Hamilton est allé encore plus loin en se permettant même d'égratigner des légendes du circuit. Je pense à l'Américain Mario Andretti et au Britannique Jackie Stewart qu'il a osé traiter d'ignorant. Andretti avait qualifié Hamilton de prétentieux en affirmant que le Britannique créait un problème qui n'existe pas.
Merci Jean-Pierre Blimeau du service des sports de France Inter. 3 incidents en 24 heures en prison. 3 gardiens ont été blessés hier à Arles par un détenu armé d'un couteau. C'était lors du parloir. Dans la soirée à Metz, 18 prisonniers ont refusé de réintégrer leur cellule. Il a fallu l'intervention des équipes régionales d'intervention de la pénitentiaire, les ERIS, qui sont revenus encore aujourd'hui à Metz pour faire entrer un détenu armé dans sa cellule. Ils se sont servis d'un taser. Des incidents et de l'inquiétude pour Franck Rassel du syndicat FO Pénitentiaire. Selon lui, les détenus sont à bout. Ils souffrent des mesures anti-Covid-19, du manque de contact physique avec leurs proches au parloir.
L'ambiance est tendue parce que les détenus n'ont pas approché leur famille depuis le mois de mars, depuis le début du Covid-19. Hier, c'était organisé, vous avez 3 meneurs qui ont l'emprise sur le reste de la détention. Les autres détenus étaient en promenade, ils leur ont intimé l'ordre de ne pas bouger. Nous, on voit actuellement qu'il y a beaucoup. Alors, est-ce que c'est lié ? Nous, on pense que oui. Le contact direct entre les familles et les intervenants extérieurs au niveau des détenus, actuellement, il y a moins de rentrées de produits stupéfiants et de produits illicites que la période avant le Covid. Ils sont certainement en manque aussi. Tout s'est tendu partout. Et il faut savoir actuellement qu'un surveillant, on a un talkie-walkie et un sifflet pour se protéger, c'est tout.
Franck Rassel, secrétaire de FO Pénitentiaire en Lorraine. En visite à Lille, dans le Nord, aujourd'hui, Gérald Darmanin promet 50 de policiers nationaux supplémentaires dans la métropole lilloise dès septembre. C'était une demande interne de la mère Martine Aubry pour faire face au trafic de drogue. Vous l'avez entendu ce soir à 18h sur Inter, le vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, il réclame le statut de station balnéaire pour les bases de loisirs de France. Objectif, renforcer la sécurité. Deux jours après, une impressionnante rixe entre jeunes de quartier sur l'un de ses sites à Étampes, dans l'Essonne. La région annonce son intention de porter plainte. Et puis une enquête ouverte à Saint-Étienne pour coups et blessures après le bizutage de jeunes apprentis footballeurs au centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Le club a porté plainte. Il suffit d'un rien pour que tout s'embrase. Un mégot, un écobuage mal maîtrisé, un barbecue et en guise d'étincelle, du vent et des fortes chaleurs. On l'a vu ces derniers jours, la menace des incendies. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine, comme a priori celui d'Anglette. Vendredi, 165 hectares de végétation partis en fumée dans cette commune de Pyrénées-Atlantiques. L'inquiétude grandit concernant les forêts urbaines très fréquentées et en Île-de-France aussi, elles sont sous surveillance. William Delesse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi aujourd'hui une patrouille équestre de l'ONF, l'Office National des Forêts, sur le site de Fontainebleau, tout près de Paris, en Seine-et-Marne.
Oui, alors à première vue, le site de Fontainebleau, il est sans risque, car proche de la région parisienne et donc pas dans le sud. Eh bien, c'est tout le contraire, nous disent ces cavaliers de l'ONF. La forêt de Fontainebleau, elle est sur du sable et c'est un terrain particulièrement sec en ce moment. Les pluies se sont raréfiées, la sécheresse, elle est de plus en plus fréquente chaque année et les départs de feu le sont également. Plusieurs départs de feu ont été signalés ces derniers jours et ces dernières semaines, départs de feu sans gravité. Alors il y a effectivement ces cavaliers qui patrouillent, qui vont à la rencontre des promeneurs et qui vont à la rencontre notamment des fumeurs qui jettent parfois leurs mégots, des mégots mal éteints qui, et ces mégots mal éteints provoquent l'embrasement de la forêt. Tous ces cavaliers font de la pédagogie, c'est l'objectif principal, mais l'amende s'élève à 135 euros pour tout départ de feu, que ce soit des mégots ou encore des feux de forêt, des feux de camp, des bivouacs qui sont également fréquents. On a pu en apercevoir certains durant le reportage. Des équipes de l'ONF, pour terminer, qui ont également fait l'acquisition d'un drone pour surveiller d'éventuels départs de feu sur place. Preuve qu'ici aussi, la vigilance est maximale.
Et ce week-end à Anglette, merci William Delesse en direct de Fontainebleau pour France Inter. Ce week-end, la secrétaire d'État à la biodiversité a annoncé que la campagne de prévention contre les feux de forêt sera étendue dès cette année à l'ensemble du territoire métropolitain. Tic tac, les soldes se terminent bientôt le 11 août. Et si vous faites partie de ceux qui achètent en ligne, gare aux arnaques par exemple, aux faux avis sur les produits, déjà 22 000 signalements déposés sur l'application Signal Conso, expérimentée dans 3 régions depuis l'an dernier, Delphine Simon.
Aujourd'hui, les consommateurs choisissent souvent un produit ou un service en ligne grâce à des avis. Or, certains commerçants utilisent des officines pour se créer des avis positifs, voire pour dénigrer leurs concurrents. Pour traquer ces faux avis de consommateurs, les gendarmes de la concurrence peuvent désormais s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Virginie Beaumenier, la directrice de la DGCCRF.
Il faut absolument qu'on lutte contre ça si on veut que les gens aient confiance, si on veut que les entreprises sérieuses fonctionnent bien. Donc on va chercher des données sur Internet. On a des critères qui nous permettent de repérer ces faux avis de manière plus rapide.
Un autre outil numérique doit faciliter le travail des enquêteurs. Objectif, traquer les clauses et les pratiques abusives, dit-elle.
C'est de faire une analyse des clauses dans les contrats, les factures, les devis qui nous permettront de repérer ceux qui sont abusifs. On fera des croisements et donc après on pourra mieux cibler effectivement nos contrôles.
Cet outil développé avec l'Institut de recherche en sciences et technologies du numérique a pris un peu de retard avec le confinement. Il devrait être disponible dès l'an prochain.
Delphine Simon, et c'est un dossier à retrouver sur franceinter.fr. C'était il y a 2 ans, le 14 août 2018, l'effondrement du pont Morandi à Gênes, en Italie. 43 morts au total, le choc et l'émotion. Les images avaient fait le tour du monde. Le nouveau pont est inauguré demain en grande pompe. La reconstruction éclair aura duré 1 an. Et c'est un événement que s'apprête à célébrer tout un pays, la correspondance d'Olivier Tosseri en Italie.
Les Génois sont impatients de pouvoir enfin traverser leur nouveau pont. Sa silhouette se dessine depuis le printemps dernier sur leur ligne d'horizon, mais il ne sera ouvert à la circulation que le 5 août prochain. La grande journée aura lieu néanmoins ce lundi pour l'inauguration du pont Saint-Georges, qui qui remplace le pont Morandi 2 ans après son effondrement. Les médias italiens se font l'écho des derniers préparatifs pour une cérémonie qui s'annonce fastueuse avec la présence des plus hautes autorités politiques, économiques et religieuses, sans oublier celle de l'architecte star Renzo Piano qui a dessiné le nouveau pont. Le président de la République Sergio Mattarella et le président du Conseil Giuseppe Conte couperont le ruban tandis que la patrouille acrobatique de l'aéronautique militaire dessinera dans le ciel le drapeau tricolore italien. Pour le pays, cette infrastructure est plus qu'un pont, c'est le symbole de l'orgueil national retrouvé après la tragédie due à un manque d'entretien criant. Il n'aura fallu que 12 mois aux 1000 ouvriers travaillant nuit et jour pour achever le chantier. Les familles des victimes attendent toujours l'ouverture d'un procès et seront reçues après la cérémonie par le président de la République. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et ce 14 août 2018, 4 jeunes Français avaient été tués dans l'effondrement du pont de Gênes. 2 filles et 2 garçons d'Occitanie et de PACA, partis faire la fête en Sicile. L'enquête, toujours en cours, a mis en évidence de graves manquements concernant l'entretien du pont géré par la société Autostrade per l'Italia, dont le principal actionnaire est la famille Benetton. 45 policiers ont été blessés hier à Berlin dans une manifestation contre les masques et les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus. 3 agents ont reçu des débris de vitres au visage et ont dû être hospitalisés. Le cortège avait réuni 20 000 personnes selon les autorités qui avaient déployé 1 000 000 de policiers. D'autres rassemblements plus petits se sont encore tenus aujourd'hui dans la capitale allemande. L'Amérique du Sud au cœur de la crise du coronavirus, Mexique en tête. Bonsoir Bertrand Galichier.
Bonsoir Alexandra.
Du service international de France Inter. Le Mexique a battu un nouveau record de contamination hier avec près d'un millier de cas supplémentaires en 24 heures. On recense désormais 430 000 personnes infectées, 47 000 morts. Bertrand, c'est le 3e pays au monde en nombre de décès derrière les États-Unis et le Brésil.
Oui, une réalité qui semble contredire les autorités mexicaines. Depuis l'arrivée du virus, elles mettent en avant l'augmentation des capacités hospitalières du pays, le recrutement de soignants et la distribution d'équipements de protection. Officiellement, les hôpitaux ne sont ni surpeuplés ni débordés, mais de l'avis général, les chiffres officiels des morts du Covid restent très en deçà de ce qu'ils sont véritablement dans ce pays de 127 millions d'habitants. Idem pour les cas avérés de contamination, le nombre de tests pratiqués au Mexique serait l'un des plus faibles au monde. Les mises en garde répétées de l'Organisation mondiale de la santé n'ont guère porté leurs fruits, sauf dans la capitale. À Mexico, la municipalité a mis en place un dépistage à la fois massif et ciblé, assez efficace. Sauf que seuls les plus riches peuvent s'offrir le luxe de rester chez eux pour se protéger. Dans une société mexicaine où les inégalités sont particulièrement criantes, les travailleurs journaliers, les vendeurs de rue, les petits commerçants n'ont d'autre choix que de continuer tant bien que mal leur activité. Les promesses d'indemnisation faites par le gouvernement pour certains employés ont même du mal à convaincre.
Merci beaucoup Bertrand Galichet. La Turquie, elle, compte officiellement plus de 200 000 cas au total de contamination pour 5 700 morts. Le pays, comme le reste du monde musulman, célèbre la fête de l'Aïd en ce moment. Il y a 4 jours fériés, mais la crise sanitaire et économique contraint beaucoup de Turcs à rester chez eux malgré la chaleur. Alors à Istanbul, beaucoup d'habitants se sont rabattus sur les rochers qui surplombe le Bosphore, ce détroit séparant la mer Noire et la mer de Marmara, à la propreté parfois douteuse. Reportage de notre correspondante sur place, Cerise Sudri-Ledu.
Le thermomètre indique plus de 30 degrés, alors qu'Istanbul est déserté, vacances de l'Aïd oblige. Ceux qui sont restés se rafraîchissent comme ils peuvent, difficile de résister à l'envie de piquer une tête. À Üsküdar, sur la rive asiatique du Bosphore, ils sont des centaines à se mettre en maillot et à plonger. Mesut vient ici depuis 10 ans et la vue n'est pas pour lui déplaire.
La mer est très belle, on profite de la beauté du Bosphore. En face, on voit le palais Topkapi, Sainte-Sophie, la tour de Galata. C'est le plus bel endroit du monde.
Si cet habitué vient souvent se baigner, cette année, ce sera son seul loisir. Avec une livre turque qui avoisine les 8,30€ contre 6 il y a encore 3 mois, il n'a pas les moyens de partir en vacances.
La pandémie nous a impactés et l'économie nous impacte beaucoup. On s'est énormément privé, alors on a préféré rester ici.
Une période de confinement encore plus difficile à vivre pour les réfugiés qui envoient de l'argent à leur famille et ont vu leur revenu s'interrompre du jour au lendemain. C'est le cas d'Abdulkadir, 22 ans, qui est arrivé d'Afghanistan il y a 4 ans et qui travaille dans un marché.
C'est l'Aïd el-Kabir et j'ai passé mes 3 jours de congé ici. Pendant la pandémie, il n'y avait pas de travail, pas d'argent. On est resté sans rien faire, mais on devait encore payer les factures, le loyer. C'était très dur.
Pour le jeune homme, les vacances sont finies. Il retourne au travail dès lundi matin. Istanbul, Cerise Drulodu, France Inter.
La Turquie qui est, on le rappelle, sur la liste rouge de la France. Tous les voyageurs doivent se soumettre à un test de dépistage à leur arrivée dans l'Hexagone. En Afghanistan, attaque d'envergure cet après-midi contre une prison de Jalalabad à l'est du pays, selon les autorités de la province. Les assaillants ont fait exploser une voiture à l'extérieur. 3 bombes au total avant d'affronter les forces de l'ordre. Les talibans affirment ne pas être responsables. Un cessez-le-feu entre insurgés et gouvernement est pour l'instant toujours en vigueur et respecté a priori depuis 3 jours dans le pays. La reprise du football féminin en France avec les demi-finales de la Coupe de France. Les Lyonnaises se sont imposées tout à l'heure 1-0 à Guingamp sans trembler ni briller. Les tenantes du titre affronteront donc en finale le vainqueur du match de ce soir à Libourne entre Bordeaux et le PSG. Coup d'envoi à 20h30. Et puis un Italien remporte la deuxième étape de la route d'Occitanie en cyclisme. Sonny Colbrelli devance le Français Brian Coquard. Sur la route, c'est la fin du très redouté week-end de chasse et croisée des vacances. Après le drapeau noir hier, c'était rouge-orangé aujourd'hui pour les départs, vert pour les retours. Antoine Geoffin, vous êtes au PC Mobilité de Radio France et pour l'heure, Antoine, ça roule mieux sur la 7.
Oui, 3h30 actuellement entre Lyon et Orange, 2h10 dans le sens inverse. C'est surtout entre Valence et Montélimar que c'est saturé, 1h30 en ce moment. D'habitude, c'est une vingtaine de minutes. 1h20 entre Montélimar et Orange. Dans le sens des retours, 50 minutes entre Orange et Montélimar, 35 seulement jusqu'à Valence. Attention à cet accident au kilomètre 137, c'est à hauteur de Pierrelatte. Sur tous les axes de la Méditerranée, la circulation est normale ce soir, à peine encombrée entre Salon de Provence et Aix, 35 minutes. Sur l'A6, pas de difficulté, dans les deux sens, ça roule très bien. Sur l'A10, un quart d'heure de plus par rapport à d'habitude entre Saintes et Bordeaux, 1h10 de trajet. Enfin, en région parisienne, tout va très bien ce soir.
Voilà pour la route et du côté du ciel, fin de la vigilance canicule en France. L'alerte a été levée pour la Drôme et l'Ardèche en milieu d'après-midi. Quel temps pour demain, premier lundi du mois d'août, Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain matin, le ciel sera souvent nuageux. Prévoyez de faibles pluies entre le Sud-Bretagne et les Pays de Loire, mais uniquement sur le littoral. Vous retrouverez aussi un régime d'averse près des frontières de l'Est. Seul le pourtour méditerranéen conservera un bon ensoleillement. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 70 km par heure. L'après-midi, le soleil va s'imposer sur une bonne moitié ouest du pays. Le ciel sera de plus en plus nuageux en allant vers les frontières de l'Est avec quelques averses isolées et surtout des pluies soutenues le long des frontières et sur le massif alpin. Côté température, les maximales seront souvent en dessous des moyennes de saison, comprises entre 21 et 27 degrés. Comptez 21 à Brest et Mulhouse, 22 à Lille, Tarbes et Clermont-Ferrand, 23 à Dijon. Prévoyez 24 degrés à Paris comme à Ambérieu et Cognac, 25 à Bordeaux, 26 à Lyon et 27 à Toulouse. Ça sera un peu plus chaud autour de la Méditerranée, avec des valeurs comprises entre 29 et 31 degrés.